Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre émission fait par et pour des curieux de tout poil. Nous sommes au bar du théâtre de la Comédie Odéon, chouchouté par David et Vincent, le duo de choc de ce lieu convivial au cœur de la ville Lumière. Au programme cette semaine, Mathieu Clarola à l'affiche de l'Espace Gerson tous les mardis jusqu'au 27 décembre avec son seul en scène intitulé « Oisiveté, amour ». Exil. Le mariage de la poésie et de l'humour ne pouvait que retenir notre attention. Sur notre plateau, Tom Bird également. Il sera en concert à la salle Léo Ferré, MJC Vieux Lyon, le jeudi 1er décembre en compagnie de La Ratasca. Attention, talent à ne pas rater. Gaëlle nous parlera de l'exposition « Destination de nos lointains » de François Réau à la Fondation Bulukian. Nous terminerons avec nos Gédéons de la semaine, les immanquables du moment. On commence avec Mathieu Clarola, humoriste, qui teste son spectacle en ce moment, Oisiveté, Amour, Exil, tous les mardis sur la scène de l'Espace Gerson. Merci d'être avec nous.
Salut, merci de m'avoir invité.
Ouais, ravi de vous recevoir. On se rencontre pour la première fois. Votre seule en scène reste en phase de test en ce moment ou est-ce que...
Non. Il est quand même bien abouti. Alors après, il démarre doucement en représentation. Il a mis longtemps à se monter parce que j'ai commencé au printemps. En 2021. Ouais, voilà. C'était génial, c'était à l'Espace Gerson, c'était en décembre dernier. Et alors c'était assez génial pour une première parce que je suis parti, j'étais content d'aller au théâtre, tout ça. Puis mon ordinateur était en panne, je m'étais fait tirer mon téléphone, enfin c'était la merde, du coup j'étais injoignable. Et du coup je suis arrivé au théâtre
et il
là ils
fermé.
M'ont dit « Ah non, on est cas contact, c'est annulé ». Voilà. Du coup, pour une première, j'ai trouvé ça... En fait, c'est drôle, quoi, parce que, voilà.
Un rendez-vous manqué, en fait. Il n'y a pas eu de première.
Ouais, voilà.
Il y a eu donc une seconde.
Une seconde première, qui était en fait la première au mois de mars.
Et ça s'est bien passé.
Et là, c'était génial, c'était plein
super.
Et tout. C'était
grand
cool.
Moment.
Moi, j'étais ravi de jouer là-bas. Et après, je l'ai repris, tu vois, deux fois au Chalala au mois de mai, parce que je joue un autre spectacle.
Et pourquoi on dit spectacle produit par le Chalala bar à spectacle? Je tiens à le préciser, c'est 95 montées de la Grande Côte.
Voilà, bah parce que c'est
un café-théâtre
donc
aussi.
Le Chalala. Alors moi, je ne fais pas partie de la compagnie permanente du Chalala, mais je gravite beaucoup autour d'eux. Quoi. J'ai joué avec Héloïse Baron, qui fait partie de l'équipe qui a monté le Chalala. On avait joué un spectacle sur Pierre et Tex. J'y joue régulièrement, je fais toutes sortes de conneries les jeudis soirs pour le bar à spectacle. Et là, du coup, on s'est mis d'accord pour, puisqu'il se monte aussi en production, quoi, pour produire le spectacle. Et ce qui est parfait, parce que moi, je peux faire tout ce qui est artistique. Écrire, interpréter,
mais diffuser,
en scène, mais
c'est
diffuser,
pas,
ouais, c'est
non,
pas mon boulot.
C'est
quoi.
Pas tout le monde, hein, j'ai l'impression, voilà. Quand même, on pourra en reparler avec Tom Bird, mais je pense que c'est pareil. C'est
et
difficile
puis,
de...
Plus
de,
je vieillis, plus ça me fait chier de le faire, et puis
bah
j'ai un poil dans la main, puis je sais pas faire, voilà aussi.
Voilà. Tout simplement. Moi, j'adore votre affiche, oisiveté, amour, donc au pluriel, bien sûr, souhaité, hein, on va dire, hein, bien sûr.
Bah, ouais. Les amours, ouais, il y en a plein, quoi.
Le pluriamour.
Il y a plein d'amour, de formes d'amour, ouais.
Ouais,
c'est pas que
le polyamour
dans le couple quoi ou l'amour l'amour avec ses parents avec ses enfants l'amour les amours
divers et variés. Et alors c'est vous qui le dites hein, parce que la baseline en fait titre la baseline enfin le sous-titre le sous-titre alors je vais essayer hein, hurlu berlurie voilà. Et satirico-poétique.
Hurluberlerie satirico-poétique. Ouais,
oui,
c'est
vous
ça.
Le dites beaucoup mieux que moi. Voilà, donc j'aurais dû vous laisser faire. C'est une évidence, ça sera coupé au montage, ça n'est pas un problème.
Non, c'est bien, c'est bien.
En tout cas, j'aurais essayé. L'humour et la poésie peuvent faire bon ménage. Moi, quand j'entends ça, je pense à Boris Vian. Ça vous dit quoi?
Ça me fait plaisir, moi, Boris Vian, j'aime beaucoup, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de faire juste de l'humour ou juste de la poésie ou juste de la chanson ou juste du théâtre. En fait, je me fais chier, au bout d'un moment, c'est un peu un milieu clos, quoi.
Bien sûr.
Et en fait, ce spectacle, il est un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Il est un peu trop théâtre pour le café-théâtre, un peu trop café-théâtre pour le théâtre. On va dire que la forme est assez café-théâtre, mais voilà.
Bien sûr. Oui, c'est du seul en scène. Mais il n'y a pas de noir, il n'y a pas de sketch à proprement parler où vous prenez des personnages. C'est vous. Vous parlez de
c'est
vous.
C'est moi. Ouais,
voilà.
Pas un mélange. Moi, tu sais, je fais du collage aussi de papier. Et je trouve que c'est bien de faire du collage de genre, quoi. De forme, de style. Et je fais une performance ratée, je fais une prouesse technique, je fais plein de choses dans le spectacle. Je fais des textes en vers aussi. C'est drôle, mais pas que. Alors, c'est drôle, mais c'est drôle. Tu vois, je pastiche Barbara, quoi.
Ouais.
Voilà, donc c'est...
Il y a une façon, finalement, assez tendre d'aborder cette question de la confession.
Ce sont des choses qui me tiennent à cœur.
Oui, absolument.
À cœur et à corps, ouais. Et je ne sais pas si je me livre ou... je ne pense pas forcément à ça quand j'écris, mais finalement, je vois bien qu'il y a... Moi, je rapproche un peu, finalement, le personnage que je développe pas mal, justement, dans les bars à spectacles. Et puis après, dans ce spectacle-là, il y a un côté clown. Alors, j'ai pas de nez rouge, je fais pas du clown, j'en ai jamais fait.
Et pas de maquillage blanc sur scène
non
plus.
Mais il y a un côté clown aussi au sens burlesque. Mm-hmm. Burlesque.
On prend les pieds dans le tapis.
Je pense beaucoup à... tu vois, je te disais, on avait monté un spectacle autour de Pierre et Tex.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Tati, Laurel et Hardy. Moi, j'adore Stan Laurel, quoi. Buster Keaton, voilà.
Bien sûr. C'est vrai qu'en vous écoutant, on a cette sensation comme ça aussi d'une forme de phrasé aussi que vous avez. Est-ce que vous le cultivez sur scène aussi? C'est-à-dire une façon de parler, une façon d'apporter les choses, etc. Avec une sorte de lenteur et une sorte de culture des mots choisie.
Alors sur le phrasé, en fait, c'est un peu malgré moi parce que j'ai eu un accident il y a 10 ans et j'ai vachement perdu en élocution.
D'accord.
Donc je pense que je me suis, malgré moi, sans faire exprès, mais un peu adapté à ça, quoi.
Ouais.
Et après, sur le... c'était quoi le truc sur les mots, quoi?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire une façon de choisir ses mots.
Ah, ça, j'adore. Moi, ça, j'adore, quoi. D'écrire, de choisir, de trouver le mot juste. Et donc, j'écris pour la scène et puis aussi pour rien, quoi. J'écris toutes sortes d'histoires, des poésies. Tu sais, des fois, tu tournes autour du mot. Moi, j'aime bien dire ça, quoi. Tu cherches... Il y a besoin d'un mot pour dire quelque chose.
Mais il faut trouver le mot juste.
Trouver. Et des fois, tu peux passer... plusieurs heures où tu laisses de côté, tu reviens et là tu trouves, ou alors tu as les mots mais tu sais pas dans quel ordre il faut les mettre.
Mathieu Clarolin, vous faites ce métier depuis 2006.
Ouais.
Ce métier finalement du spectacle vibrant, vous dites.
C'est ça.
C'est assez joli, je trouve. Que vous faites du dessin aussi parce que j'adore votre affiche.
Ouais, je fais du dessin mais je sais pas dessiner et c'est ça qui est bien en fait, quoi.
C'est tout à fait bien. Ouais, je suis complètement d'accord. Vous savez pas dessiner mais je trouve que c'est plutôt pertinent. La bouche de métro, les cafés, vous avez même une petite référence à NTM.
Ouais.
Un groupe que vous aimez peut-être.
Ouais, j'aime bien. Et NTM, la RTT, c'est ça. Ouais, j'aime bien tout ce qui dessine. Mais vraiment, quand je dis je sais pas dessiner, je sais pas dessiner. Hein.
Ouais, mais vous vous faites plaisir,
quoi,
ça
voilà.
se voit.
Et
ça se transmet. Est-ce que c'est pareil sur scène? Est-ce que vous transmettez quelque chose de l'ordre de cette chaleur humaine, de ce bonheur, comme ça, à vous écouter?
Ben moi, c'est le ressenti que j'ai, quoi, par rapport au public.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que je tiens à ce spectacle, parce que oui, il est...
Tous les mardis, à l'Espace Gerson.
Jusqu'au
27 décembre, il faut y aller absolument.
En fait, tous les jours à l'Espace Gerson, et moi je dis tous les jours... Et je fais une relâche du mercredi au lundi.
Oui, c'est bien, c'est mignon, j'aime bien aussi.
Ouais, mais c'est bien.
Mais il faut penser à se relâcher.
Ouais,
c'est important.
Mais c'est bien de dire qu'on bosse beaucoup, quoi. Donc moi, je dis tous les jours jusqu'à la fin de l'année, relâche du mercredi au lundi.
Quels sont les retours les plus surprenants que vous avez eus à l'issue de la représentation? Je sais qu'à l'Espace Gerson ou dans les cafés-théâtres en général, on rencontre volontiers son public. Vous parliez juste du public qui vient vous voir. Quels sont... tu vois, un souvenir comme ça d'un, de quelqu'un.
Bah, tu vois, spontanément comme ça, j'en ai pas. Non, mais c'est vrai, ils m'ont pas fait de retour surprenant. Je vais réclamer, quoi.
D'accord.
Non, des trucs vraiment très banals, quoi. Genre, c'est bien, fantastique, bien écrit. Voilà.
Mais rien de. Pas de surprise.
Ouais, ils pourraient avoir plus d'imagination, c'est vrai. Ouais,
c'est vrai. Bah, réclamez-le hein, la prochaine fois, Mathieu Clarola. Parce qu'effectivement, quand on voit votre spectacle, il est pas indifférent. J'ai vu que le teaser. Et ça m'a super donné envie de le voir.
Mais c'est super, quoi, parce qu'en plus, tu l'aurais vu, peut-être que tu ne m'aurais pas invité, quoi. Alors ça, je trouve ça génial, quoi.
Ben, c'est possible, en fait. Mais maintenant que je vous ai rencontré, eh ben, j'ai très, très envie quand même d'aller le voir, ce spectacle.
Ah, mais carrément, c'est bien, quoi. C'est un lieu qui est sympathique. Je ressens, moi, je suis ravi de jouer là-bas.
Dernière question. Est-ce qu'on parle de votre badge, mauvais genre?
Ah ouais, si tu veux. Ouais. Mmh. Tu veux savoir ce que c'est?
Disons, il est gros, il est rouge, gros, et c'est marqué mauvais genre dessus.
Ouais. Des fois, je l'ai sur scène, mais pas tout. Je vais raconter l'histoire de mauvais genre. C'était Quai du Polar, tu vois, le festival.
Bien sûr.
Ils cherchaient un titre pour leur badge. Ils avaient posté ça sur Facebook. Et moi, j'avais proposé mauvais genre. Sans savoir que c'est par ailleurs le titre d'une émission de France Culture sur le polar. Ils devaient le savoir parce qu'ils accueillaient la dite émission. Bref, ça leur a plu. Et du coup, j'ai eu droit à un badge. Donc, c'est un peu mon droit d'auteur que j'arbore à la boutonnière. Alors, je l'ai perdu plein de fois. On m'en a redonné. Mais là, donc, tu vois, je l'ai accroché avec la gueule, tout ça. Parce que là, c'est le dernier, quoi. Il y en a plus.
Là, c'est
mais c'est
le dernier.
Parce que je vois les gens, des fois, dans le métro, comme ça, dans la rue, ils regardent, ils se demandent ce que c'est, quoi, mauvais genre.
Vous voyez, donc, ça suscite la curiosité.
Mais c'est ça.
Comme vous, Mathieu Clarola, en tout cas, avec le spectacle Oisiveté, Amour, Exil.
Heureux du berderie satirique ou poétique.
Trop bien. Je vais prendre des cours de diction avec vous, je crois.
Ah merde. C'est pas gagné.
Jusqu'au 27 décembre prochain. Merci beaucoup d'être venu.
Merci,
Mathieu.
C'était vachement chouette. On se reverra après le spectacle. On refera une
d'accord.
émission. Trop
allez,
bien.
Et puis j'essaierai de poser des questions trop, trop super, trop, trop bizarres.
Et des retours surprenants. Hein.
D'accord, ouais. Ça marche.
J'en réclamerai. Merci. Hein.
On poursuit notre émission avec toi, Guillaume. Tu es venu accompagné de Tom Bird. Tom Bird, c'est pas tout à fait un inconnu pour nos auditeurs, parce qu'il était venu à domicile, je me souviens, alors que tous les lieux de spectacle étaient encore fermés. C'était le 28 novembre 2020. Nous avions évoqué son travail de composition et ses aspirations du moment. Qu'en est-il aujourd'hui? Je ne pose pas la question, c'est Guillaume qui va poser les questions. Je vous cède la parole à tous les deux. Merci beaucoup d'être là.
Bonsoir Tom Bird.
Bonsoir.
Alors d'abord, je voulais t'inviter parce que, bah, évidemment, tu es né le 22 novembre et donc
c'est ça.
C'était il y a peu, donc bon anniversaire.
Merci.
Voilà. Bien sûr, tout de suite pour commencer, tu as fait une petite campagne pour un album qui devrait sortir très prochainement.
Ouais.
Et donc, moi, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Il y a un titre qui est sorti, mais ça, tu nous en parleras un petit peu peut-être plus tard. Mais quelle est la thématique de l'album? Puisque apparemment, il y a quand même, c'est pas un album concept, mais
presque. Alors c'est marrant déjà d'entendre qu'il y a 2 ans, je parlais déjà sûrement de cet album-là, je devais dire qu'il allait sortir dans quelques mois. Cette fois, ça y est, il sort en mai 2023, donc la date est actée. Ça m'a permis vraiment d'avoir du temps pour travailler un peu plus le concept. Oui, alors c'est pas un concept forcément universel, mais j'avais pas envie juste de mettre des chansons sur l'album et puis de dire pour un premier album, bon bah voilà, on va sortir ça comme ça. Je voulais un peu chercher quelque chose de plus qui me corresponde un peu plus aussi. Donc il s'appellera Le Portrait et ça va être le portrait de autant de personnages, de lieux, de... On va parler du couple aussi, mais vraiment de manière plus large. Et ça me tenait à cœur en tout cas d'avoir vraiment tous ces gens qui gravitent autour de moi et dont je parle bah, finalement très peu sur les 2 premiers EP. C'est vrai que c'est beaucoup une introspection, des choses comme ça. Là, j'avais un peu plus envie de voir... autour de moi. Voilà, une campagne Ulule pour m'aider un petit peu parce qu'effectivement l'album coûte plus cher qu'un EP 5 titres. Je ne me rendais pas compte à quel point. Donc on a réussi à avoir quand même forcément un peu de fond, mais pas assez. Donc petite campagne Ulule pour compléter un peu tout ça et permettre de commencer un peu à parler de l'album aussi.
Tu disais qu'il y a des portraits, il y a un titre qui vient de sortir, donc Grand-mère. Alors pourquoi ce titre? Alors j'imagine que c'est quand même autobiographique malgré tout, mais finalement quand on l'écoute, on pense à nos grand-mères respectives.
Alors pourquoi grand-mère? Parce que c'est la première personne qui m'a appris la musique. Quand j'avais 8 ans, elle m'a mis un tout petit piano, mais vraiment petit, dans les mains. Et elle m'a appris le solfège. Et j'avais essayé de faire une année d'école de musique où je pleurais tout le temps parce que je faisais pas ce qu'il fallait visiblement. Et étant très très hypersensible, j'arrivais pas. Et ma grand-mère avait plus de tact déjà et je lui faisais plus confiance peut-être. Donc elle m'a appris la musique là-dessus et ça a été un peu la première personne qui m'a fait confiance, qui m'a donné l'envie aussi de faire de la musique, de m'y intéresser. Donc pour les portraits, c'était la personne qui était la plus évidente dont je voulais parler et la première qui ouvre l'album parce que c'est je lui dois.
Qui est très touchant parce qu'en fait, tu l'invites presque à rester en vie.
Oui.
Et c'est assez particulier parce que on s'attend pas à une chanson comme ça en fait. On s'attend peut-être plus à un hommage, voilà, mm-hmm. comme tu disais, elle m'a appris ci, elle m'a appris ça. Mais là, c'est un peu bizarre quand même.
Alors oui, bah, je voulais pas forcément raconter ma grand-mère. Je voulais pas dire voilà, ma grand-mère est une personne qui fait ça, qui déjà parce qu'elle est très pudique. Donc ça pouvait me gêner et non en fait je voulais plus mettre en avant le côté bah voilà pendant cette fameuse période de 2 ans on va dire où moi je l'appelais au téléphone et en fait elle continuait de me dire ce qu'elle me disait depuis 15 ans à savoir bah là ça y est là là faut qu'on se voit bientôt parce que vraiment c'est ma dernière année où... et cette phrase me restait tout le temps parce qu'à chaque fois que je l'appelais chaque année je me disais putain ça fait quand même plus de 15 ans que tu me dis ça, donc il y a un moment où il va falloir arrêter de le dire et je trouvais ça en tout cas chouette de démarrer plus sur cet angle là et de dire je sais tu vas partir dans pas longtemps mais finalement là on peut encore en profiter donc essayer de se baser plus sur le positif et, ça me tenait plus à cœur quoi.
Alors sur le site de la campagne Ulule il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire puisque tu dis dans ce disque il n'y aura pas de cornemuse ni de remix, ni de duo avec Angèle.
Non, désolé.
Mais il y a quand même un duo. Est-ce que tu peux quand même nous parler de ce duo parce que c'est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui nous tient à cœur.
C'est
et à
vrai.
Toi aussi.
Et à moi aussi, complètement. C'est pas Angèle, effectivement, c'est Leïla Huissou qui m'a, je pense, qui m'a quand même ouvert la porte de la chanson de manière générale. J'écrivais déjà un peu en français, mais c'est vrai que c'est la première personne, en tout cas une des personnes que je connaissais, que j'ai écouté en me disant waouh, en fait, il faut que je passe le cap, il faut que je le fasse aussi, il faut que je présente mes chansons. Et je sais pas pourquoi. C'est tombé sur elle, sa manière de faire, c'était tellement facile, en fait, que je me suis dit ouais, c'est pas un monde finalement, donc on va y aller. Et là, clairement, c'était pour moi le pareil. Il y avait ma grand-mère et il y avait Leïla. Je voulais absolument faire une chanson avec elle, une chanson qui, pour le coup, est très parlante, dont je dévoilerai pas forcément grand-chose pour le moment, parce que j'ai pas encore appris à bien parler des chansons qui seront présentes. Mais il y aura un petit duo et c'est vraiment un duo. C'est pas juste on fait des petits chœurs ou on est vraiment à deux.
Alors on embrasse Leïla, moi je trouve que je l'ai vue samedi dernier en fait en concert dans sa nouvelle version, enfin je sais pas comment on peut dire parce que c'est plus de la chanson, c'est autre chose, c'est vraiment sa personnalité et elle a fait une reprise assez incroyable d'un groupe français qui s'appelle Luc, qui est un groupe de rock et elle a complètement dépouillé la chanson et c'était extraordinaire. Donc on t'embrasse Leïla si tu nous écoutes. Tu peux peut-être nous dire quelques mots de la date, donc de samedi, je crois. Non, jeudi 1er décembre, puisque finalement, tu as une carte blanche.
Cette carte blanche, c'est un peu particulier. Ça ne va pas être un concert comme d'habitude. On ne va pas forcément jouer le spectacle comme il était ou avec les mêmes chansons. Ce qu'on a voulu faire, c'est que vu qu'on va proposer bientôt le nouveau spectacle et que l'ancien, ça fait peut-être 4 ans qu'on le joue avec quand même des nouveautés à chaque fois, mais c'est vrai que c'est à peu près le même. Et là, on s'est dit, on va faire différemment. Vu que j'ai voulu partir de la base que ma grand-mère m'a appris la musique à 8 ans, ben en fait, on va repartir un peu en arrière. Donc, je vais chanter des chansons que je n'ai pas sorties sur les disques et peut-être pour une bonne raison d'ailleurs, je sais pas, on verra. Mais du coup, ça va être un peu une cour de récré. On va faire des titres qui n'ont pas été choisis. On va en faire quand même qui sont sur les EP aussi. Sur le premier EP, il y a un titre qu'on n'a jamais joué, qui est Le Cri du Silence, que je ne joue plus depuis quasiment le début. Donc là, on va le rejouer également. Je vais faire des chansons de mes anciens projets. Donc en fait, ça va être un peu... On va prendre du Ladybug and the Wolf, qui était un groupe folk auquel je faisais partie. Mmh. Et une chanson de Leïla aussi, évidemment. Et puis peut-être une ou deux nouvelles qui arrivent. Mais voilà, ce sera vraiment un concert à part. C'est pas un concert qui... On ne le jouera plus. Et on ne l'a jamais joué. Je préfère prévenir. Mais ça va être chouette.
D'accord. Bah on va rappeler la date. Donc jeudi 1er décembre, avec Lara Tasca en première partie. Donc à 20h30, à la salle Léo Ferré, donc la MJC Saint-Jean. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, parce que je me trompe toujours de MJC. Il y en a tellement.
MJC du Vieux Lyon, exactement.
La MJC du Vieux Lyon. Voilà. Je savais qu'il y avait une expression. MJC du Vieux Lyon. Et puis on va écouter. Ben, grand-mère, justement, puisque tu viens de nous en parler de manière très éloquente.
Avec plaisir.
Raconte-moi tes histoires, grand-mère. Comment pourrais-je m'enlacer? Repasse ta mémoire à l'envers, sans la froisser. Ne m'en veux pas si je ne suis pas passé te voir. rien qu'une fois cette année. J'avoue, en douce, tu aurais pu t'envoler. J'admire ta beauté, grand-mère, avec tes cheveux blancs, comme une fleur d'été au cœur de l'hiver. Arrête un peu de me parler de la mort qui t'attend chaque soir. Ne vois-tu pas qu'elle t'a laissé tomber? Ton départ vient d'être retardé. Ne ferme pas les yeux, grand-mère. Je t'en prie, laisse-moi les regarder, ces deux belles âmes solitaires. Juste avant que tu t'endormes en silence, ma centenaire. Fais-le encore patienter, fais-toi encore, encore, encore désirer. Fais-toi encore, encore, encore désirer. Fais-toi encore, encore, encore désirer. Attends encore, encore, encore une nuit. Attends encore, encore un peu, mamie.
Merci Tom Bird pour ce magnifique cadeau que tu viens de nous faire, vraiment. On trouve donc jeudi 1er décembre à la MJC du Vieux Lyon avec Lara Tasca.
On poursuit notre émission avec toi Gaëlle. Tu vas nous parler de l'exposition Destination de nos lointains de François Réaud à la Fondation Bulukian. Personnellement, ça va être une découverte. Merci Gaëlle.
Destination de nos lointains, donc de François Réaud, est à la Fondation Bulukian. Et il faut savoir que François Réaud travaille toujours à partir de textes. À la Fondation Bulukian, il rend hommage au poète René Char à travers des dessins qui explorent la lisière ténue entre figuration et abstraction. Avec Destination de nos lointains, l'artiste signale la référence dès le titre de l'exposition en reprenant un poème éponyme de René Char. Les dessins réalisés à la mine de plomb et mine de graphite invitent à une ineffable expédition dans un entre-deux-mondes entre le terrestre et le céleste. Le parcours débute avec deux œuvres installées en diptyque. L'indifférence du monde 1 et 2 révèle une végétation stylisée, formellement proche de l'estampe, avec, ça et là, un travail en réserve. L'artiste laisse des zones blanches sans dessin et souligne la fragilité de la nature. Fragilité, cela vous interpelle forcément. Comprenez le parallèle avec Manifeste de la fragilité, la thématique de l'actuelle Biennale d'art contemporain de Lyon, avec laquelle l'exposition de la Fondation Bulukian est en résonance. Qui dit fragilité dit également résistance. Or, résistant, René Char l'était également. Et en tant que poète, il explorait l'équilibre des contradictions et les résistances suscitées. Plus le visiteur parcourt l'exposition, plus il passe de la racine au ciel. L'incursion est ascensionnelle, avec le grand triptyque intitulé « To What Extent » d'un format de 2 mètres de haut sur 3,75 mètres de long. Nous montons dans les cieux, dans des représentations fragiles et aériennes, poétiques et cosmiques. L'artiste nous immerge dans une nouvelle dimension où le mouvement, le mouvant, la métamorphose, la formation et déformation de nuages génèrent un nouvel espace-temps. Ces dessins figurent des paysages en expansion, référence envisageable à la parole dite « en archipel » de René Char, qui joue du fragment et de l'intensité à la fois. D'autres œuvres évoquent des constellations qui, pour François Réaud, sont de facto les premiers dessins dans l'espace. L'artiste trame son support avec une multitude de minuscules traits verticaux. Ses répétitions graphiques procurent une idée de l'infini. Le paradoxe réside ici. François Réaud arrive à cadrer l'infini. Contemplez longuement ses œuvres. Elles invitent au rêve et à la méditation. Sachez que des visiteurs reviennent d'ailleurs plusieurs fois à la Fondation Bulukian pour réitérer l'expérience. La poésie de René Char suggère une jonction entre le fugitif et l'intemporel. François Réau matérialise cette idée. Ces espaces symboliques presque métaphysiques saisissent le temps suspendu et le temps qui passe. Pour relayer cette idée, Fanny Robin, commissaire de l'exposition, soulève le parallèle avec Roman Opalka, qui, employant un dispositif également axé sur la répétition d'un même geste artistique, disait « Je peins la durée ». Destination de nos lointains fait également écho à la célèbre expression de Léonard de Vinci « L'œuvre devient causa mentale ». Chez François Réau, le paysage est mental, il ne cherche pas le rendu illusionniste de la nature, mais un art de l'idée. L'exposition propose une ode à l'abstraction et aux formes, mais aussi un périple à travers la multitude de valeurs de gris et, selon l'angle de vue, de nuances argentées. Tout concourt à une élévation de l'âme. Face aux abstractions de François Réau, j'ai pensé au tableau « Le talisman, la veine au bois d'amour » de Paul Sérusier, qui est au musée d'Orsay. Même voyage symbolique, où les états d'âme, l'invisible, le rêve, l'imagination et la spiritualité sont sublimés. Pour incarner la fragilité des écosystèmes, l'artiste amène aussi la nature dans l'exposition. Une salle contient au sol des graines de tournesol. En marchant, vous les écrasez. L'immersion se fait alors sonore et l'artiste convoque le Land Art et l'Arte Povera. Une autre pièce comporte des tournesols calcinés. Calciné, certes, mais bien debout. L'idée de résistance est là. Elle s'incarne aussi dans le mot « nuit » calligraphié en néon. La nuit noire s'entoure ainsi d'une aura lumineuse. Clin d'œil supplémentaire à l'équilibre des contradictions de René Char. Dans le deuxième espace de l'exposition, François Réau évoque l'histoire textile de la ville de Lyon. Le projet relève d'un partenariat réalisé avec l'entreprise régionale La Turdine. Un grand châssis en bois suspendu au plafond permet un vaste déploiement des dessins de l'artiste, mais cette fois imprimé sur un tissu grandeur nature dont la trame se substitue au trait du crayon. Les effets de dégradé donnent à percevoir de nouvelles abstractions. Où sommes-nous ? Des Lyonnais songeront à un atelier de Canut. D'autres valeurs de gris issues de dessins de l'artiste ont été numérisées sur un cylindre d'impression textile en nickel. Sur le nickel, le rendu des nuances captives. En cette période de pic matérialiste de fin d'année, suspendez poétiquement le temps. Destination de nos lointains promet une traversée, la tête dans les étoiles. L'exposition est à voir jusqu'au 30 décembre 2022. Plus d'informations sur bulukian.com.
À voir absolument à la Fondation Bulukian. Merci beaucoup.
On termine notre émission avec nos Gédéons, les immanquables du moment. C'est un moment toujours un petit peu festif. On est venu avec des petits trucs dans nos musettes, des bouquins, des choses à découvrir. Guillaume, tu vas commencer, puisque Gaëlle vient de parler. Qu'est-ce que tu...
Alors, moi, si je vous donne comme nom Marceline Desbordes-Valmore, si je vous donne Julie-Victoire Daubier, Philomène Rosan, Marie-Louise Rochebillard, est-ce que ça vous parle ?
C'est des Lyonnaises.
Ce sont des Lyonnaises, oui. Alors, tu as un petit peu lu par-dessus mon épaule, donc tu as triché. J'aurais pu dire peut-être Pauline Jaricot, ça aurait été peut-être un peu plus connu. Voilà. Donc, en fait, toutes ces femmes font partie d'un livre qui vient de sortir aux éditions Lyon Capital, une bande dessinée qui s'intitule « Héroïne de Lyon ». Elle s'intéresse à ces Lyonnaises d'exception, effectivement, mais qui sont moins connues. Il y avait déjà eu un premier volume sur des personnages un peu plus connus. Et donc, c'est très intéressant de découvrir, évidemment, par exemple, la première femme qui a eu le bac en 1861 ou 69, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et donc, on apprend plein de choses. Et à chaque fois, en fait, il y a un petit dispositif dans le bouquin, puisqu'il y a une première page qui explique le personnage, d'accord,
et puis avec ensuite, un portrait.
Avec un portrait, voilà, des informations historiques, et puis ensuite quelques planches de bande dessinée. Donc on peut peut-être citer la personne qui est à la tête de cette entreprise, Ludivine Stock, mais elle est accompagnée d'autres dessinateurs comme Charlotte Roussel, Marie Avril, Morgane Velten, Mathieu Rebière, Christophe Fournier. Donc c'est vraiment un bouquin passionnant pour apprendre plein de choses à la fois en passant un très beau moment. Et une personne très bien informée dans ce lieu, le Théâtre Comédie Odéon, m'a indiqué que la semaine prochaine, aux archives de la ville de Lyon, municipale de Lyon, mercredi prochain, 30 novembre à 18h30, eh bien,
il y
aura une signature et tous les dessinateurs et dessinatrices seront là, ou dessinatrices et dessinateurs, je me fais engueuler.
C'est beaucoup
voilà,
mieux.
Je ne sais pas s'il y a un ordre précis, en tout cas, tous ceux et celles qui ont participé, ça y est, j'en fais l'erreur, participeront à cette dédicace. Donc, c'est aux éditions Lyon Capitale, ça s'appelle Héroïne de Lyon et c'est disponible partout.
Ouais, très bien. C'est potentiellement un cadeau de Noël, ça.
Tout à fait.
Hein, on est d'accord. On commence notre petite série de cadeaux de Noël. Gaëlle, est-ce que tu as quelque chose dans ta petite musette ?
Pour manger Léon de la semaine et la réouverture du magasin, le CNAC, Centre National d'Art Contemporain de Grenoble. Inauguré en avril 86, 35 ans déjà, le magasin, son surnom, a été l'un des premiers centres d'art français installés dans une friche industrielle, offrant ainsi un espace de 3000 m² dédié à l'art contemporain. Fermé depuis plus de 2 ans en raison de la crise sanitaire, le magasin a rouvert le 19 novembre dernier. Céline Kopp, sa nouvelle directrice, souligne que l'espace restructuré sera un lieu de vie convivial, à usage multiple, ouvert à toutes et tous et à la programmation plurielle. À l'affiche de la réouverture, 2 expositions. L'une individuelle intitulée « Paysages » de Binta Diop, avec des œuvres inspirées de la pratique du tressage faite par les femmes africaines et des photos retravaillées à la craie grasse. L'autre exposition est collective. 11 artistes ont travaillé sur l'idée de la position de l'amour. Certaines œuvres ont été spécifiquement créées ces derniers mois dans l'atelier même du magasin. Est-ce le signe d'une renaissance à venir de l'école du magasin qui avait fermé en 2016 ? Car c'est elle une des premières écoles européennes à dispenser également et dès 87 une formation de commissaire d'exposition. Quoi de mieux qu'une petite escapade à Grenoble pour sonder les paysages de Binta Diop ou la deuxième exposition qui envisage l'amour comme un acte, un choix d'écoute, de regard et d'expérience de l'autre. Nous souhaitons une très bonne réouverture au magasin CNAC de Grenoble. Les expositions sont programmées jusqu'au 12 mars 2023. Plus d'informations sur magasin-knac.org.
Merci Gaëlle. Moi je vais terminer pour ma part. Il s'agit d'une série, c'est intéressant puisque Gaëlle, sans se concerter bien sûr, nous parle de l'amour, effectivement, une exposition au magasin. Eh bien moi j'ai envie de vous parler d'une série d'Arte qui s'appelle L'amour et ses réseaux. Ce sont des témoignages de rencontres d'hommes et de femmes sur les réseaux sociaux en 5 minutes avec une illustration en dessin d'animation. C'est extrêmement bien fait, c'est croustillant. Les épisodes sont très courts, 5 minutes, se dégustent avec délectation, mais sans voyeurisme. Les illustrations font référence à la mythologie, au sens parfois caché des mots prononcés dans les témoignages, un peu comme une psychanalyse en direct. Une double lecture bienvenue quand on parle de rencontres amoureuses, évidemment. Avec ces 20 épisodes, les auteurs déjouent les pièges des stéréotypes et des idées reçues sur les rencontres amoureuses au temps des réseaux sociaux. C'est tout simplement jubilatoire. Cette série est proposée par Cécile Rousset et Romain Blanc-Tailleur, d'après les témoignages recueillis par René Creusard, qui est journaliste. Si je résume, c'est un peu comme un petit podcast, mais sauf que c'est en images et c'est génial. Ça s'appelle « L'amour et ses réseaux », c'est une série d'Arte. Allez, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.